Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Graphite 94.9 et nous nous retrouvons pour notre deuxième émission des Échos de l'innovation. Nous sommes un groupe de 8 étudiants de l'Université de technologie de Compiègne et nous réalisons cette émission dans le cadre d'un projet dans notre matière sciences et débat public sur le thème de l'innovation. Notre émission du jour portera sur le fait d'innover dans un monde sous contrainte. Et par contrainte, nous entendons contrainte physique, contrainte énergétique, contrainte d'approvisionnement et aussi contrainte d'usage. Et pour cela, aujourd'hui, je serai accompagné de Théa et Melchior qui vont nous parler justement de biomimétisme. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du biomimétisme et c'est le fait de copier le vivant.
Par la suite, nous allons pouvoir écouter aussi Paul et Rémi. Bonjour Paul et bonjour Rémi.
Bonjour à tous.
Qui vont nous parler justement de low-tech et d'innovation frugale.
Ouais. Bonjour, nous on va vous présenter l'innovation frugale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on sera ravis de vous présenter cette nouvelle technique d'innovation pour comment innover différemment. Donc on se retrouve tout à l'heure.
Eh bien parfait, à tout à l'heure. Et tout d'abord, pour commencer, on va avoir Élise qui nous parle du jour du dépassement. Alors le jour du dépassement, qu'est-ce que c'est? On va le savoir tout de suite.
Jeudi 29 juillet 2021. Un jour normal pour vous les hommes. Un jour comme un autre. Un jour comme tous les autres. Et pourtant... Si vous saviez comme chaque année je le redoute. Sans cesse, vous déracinez mes arbres, pêchez et abîmez mes fonds, asséchez mes eaux, abattez ma faune et brûlez ma flore. Sans cesse, la fumée de vos usines m'étouffe et le poids de vos agglomérations en béton pèse sur mon sol. Vous extrayez mes ressources comme si elles étaient vôtres, sans modération ni raison. Puisque cette année encore, votre appétence a eu raison de moi, je vous l'annonce. Nous avons dépassé en ce 29 juillet 2021 ce fameux jour que vous-même avez appelé le jour du dépassement. Le jour à partir duquel vous avez pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres, construit et cultivé sur plus de terres que ce que ma nature peut vous procurer au cours d'une année. Et sachez que cette date arrive plus tôt chaque année. À ce rythme, il faudrait que je me multiplie en deux pour satisfaire l'entièreté de vos besoins grandissants. Votre consommation et votre confort au prix de ma santé, au prix de ma vie et bientôt de la vôtre. Car pour l'instant, si vous avez l'impression que ce jour fatidique n'a pas d'impact sur vous, regardez bien autour de vous et ouvrez grand vos oreilles. Bientôt, à force de surexploiter mes ressources, je ne pourrai plus rien vous offrir. Et ce jour-là, il sera trop tard pour faire marche arrière. Alors je vous le demande, jusqu'à quand serai-je encore capable de puiser dans mes réserves et de panser mes plaies pour satisfaire vos caprices ? Comme vous avez pu le comprendre, le 29 juillet, nous avons atteint le jour du dépassement. Ce fameux jour où l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Et ce n'est pas étonnant que ce jour arrive chaque année plus tôt, quand on sait que chaque jour dans le monde, nous coupons 2400 arbres par minute, soit l'équivalent de 200 km² de forêt par jour. Nous pêchons en moyenne 246 575 tonnes de poissons. Nous abattons environ 2000 animaux par seconde dans nos abattoirs. Une espèce animale et végétale disparaît toutes les 20 minutes. Et nous émettons des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ce discours peut paraître un peu fataliste, mais il nous permet de vous faire passer le message suivant. Même si depuis 4 mois nous vivons à crédit, il est encore temps d'inverser la tendance en changeant notre façon de produire et de consommer. Nous devons changer nos habitudes et cela passe par trouver de nouvelles façons d'innover. d'où le thème de cette émission, qui nous amènera à nous questionner sur de nouvelles façons d'innover, en prenant en compte les enjeux éthiques et durables de notre siècle. Je vous quitterai sur une citation de Geronimo, que vous avez peut-être déjà entendue. Lorsque le dernier arbre aura été coupé, le dernier poisson pêché et la dernière rivière polluée, quand respirer l'air sera écœurant, vous vous rendrez compte, trop tard, que l'argent ne se mange pas.
Merci beaucoup, Élise, pour ton intervention. Merci aussi d'avoir ramené la Terre pour nous parler un petit peu et nous dire où elle en était et ce qu'elle pensait. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, on va s'intéresser à la question énergétique, où on pille les ressources, on exploite toujours plus de minerais, toujours plus la Terre dans son ensemble, que ce soit ses forêts, que ce soit ses mers. Mais on exploite aussi ses ressources énergétiques. Et ces ressources énergétiques, elles ont un intérêt stratégique, mais à quoi ça sert ? À quoi sert l'énergie, en fait ? Et lorsqu'on parle, justement, lorsqu'on parle de ressources, on parle avant tout d'énergie. Et qu'est-ce que l'énergie ? En fait, et pour ça, je vais faire un petit tour de table avec mes invités. Je vais leur demander, justement, je vous demande, comment définirez-vous l'énergie ? À quoi ça sert ? Voilà. Alors, est-ce que Rémi veut nous dire quelque chose ?
Bah, pour moi, l'énergie, c'est un peu ce qui sert aujourd'hui à faire fonctionner tout ce qu'on a construit pour l'homme. Ce qui sert à nous éclairer, par exemple, ce qui sert à faire fonctionner nos voitures, faire fonctionner tout ça. C'est ce qu'on va consommer pour avoir une action derrière, qu'elle soit mécanique, thermique, etc.
Ok, très bien. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose ?
Je suis du même avis que Rémi, qui a très bien défini le terme. Pour moi, j'aurais dit tout d'abord que c'est pour se déplacer. C'est un peu la première idée qui vient en tête. Et voilà.
Bah parfait, merci de vos interventions. Alors, vous êtes plutôt des bons élèves. Souvent, quand on parle d'énergie, qu'est-ce qui nous vient en tête ? C'est la facture d'électricité. On parle d'électricité. On parle de tout ça. On parle aussi, de temps en temps, c'est vrai, d'essence. Mais avant tout, l'énergie, c'est vu comme quelque chose qui s'achète. Effectivement, c'est pas que ça. C'est l'énergie, dans sa définition, c'est une grandeur physique, qui mesure la capacité d'un système à modifier un état. Du coup, c'est comme ce qui a été dit par Rémi, c'est ce qui permet de faire fonctionner ce qui nous entoure. Nos voitures, toutes les machines qui vont par exemple construire, déconstruire des bâtiments, des objets. Du coup voilà, on peut avec de l'énergie aussi avoir une agriculture moderne. On peut aussi s'habiller, on peut faire toutes ces choses. Et avant tout, l'énergie ça existe sous forme, c'est-à-dire en tant qu'humain. On peut déplacer les objets, on peut se déplacer nous-mêmes. Mais on voit bien qu'on a une certaine limite, des limites physiques, où on ne peut pas aller au-dessus d'une certaine vitesse. On ne peut pas tout faire. Et c'est là où viennent les ressources énergétiques, notamment le pétrole, les énergies fossiles, le gaz, et par la suite l'électricité, qui va venir du nucléaire, de l'hydraulique, des énergies renouvelables. Où, en fait, c'est une façon de pouvoir décupler notre force. De pouvoir un peu tout faire, d'aller plus loin, de le faire plus rapidement, de construire des choses plus hautes. Et on sort d'une période où tout était renouvelable. Et par renouvelable, j'entends les animaux, j'entends le vent, le soleil. Toutes ces choses-là, en fait, c'est notre monde il y a 200, 300 ans, où avant, on utilisait les animaux dans les champs, ou bien pour les déplacements. On utilisait les moulins à vent, à eau, pour le blé, le réduire en farine. On utilisait des bateaux à voile. Et on utilisait, bien évidemment, la biomasse pour chauffer, ce qui existe toujours, où on peut toujours chauffer avec du bois, en ayant une cheminée ou avec un poêle. Mais ça, c'est justement le monde d'avant. Mais par la suite, on a découvert, au moment de la révolution industrielle et un peu avant, le charbon, le pétrole, le gaz, toutes ces énergies fossiles qui nous ont permis de croître, de s'émanciper, d'aller toujours plus loin. Il fallait ces énergies-là, fallait un convertisseur, fallait quelque chose pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a pris, qu'on a inventé la machine à vapeur, ou plutôt la machine à vapeur a permis d'utiliser en masse les énergies fossiles et de convertir l'énergie chimique que constitue par exemple l'énergie chimique du charbon ou du pétrole et de le transformer en mouvement, de le transformer parfois en chaleur aussi. Et c'est là où nous sommes rentrés, au moment de la révolution industrielle, dans l'ère des machines. Notre société actuelle ne fonctionnerait pas sans ça, ou elle ne ressemblerait en rien à ce qu'on connaît, nos jours. Notre vie serait complètement changée. On a aussi besoin d'électricité, qui est une forme d'énergie qui peut provenir, comme je l'ai dit au début, d'énergie fossile, mais qui peut venir aussi d'autres formes pour capter l'énergie, comme les panneaux solaires, l'énergie hydraulique, même l'exploitation des marées, il y a différentes formes. Néanmoins, en France, pour ne prendre que la France en exemple, l'électricité correspond entre 20 et 25% de notre consommation d'énergie finale. C'est-à-dire l'énergie qui est consommée à la fin, en bout de circuit, ça ne représente qu'entre 20 et 25%, ça dépend des années. Du coup, quand on nous parle de transition énergétique, où tous nos objets vont être électriques, nos voitures vont être électriques, ça c'est la mode, en ce moment on ne parle que de ça, il faut se remettre en tête que tout électrique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire avoir la capacité de créer des objets qui fonctionnent à l'électricité déjà, avoir la capacité de produire cette électricité, c'est-à-dire multiplier par 4 ou 5 notre production. Il faut réfléchir à comment on produit cette électricité. Est-ce que finalement, l'électricité, si c'est produit avec du gaz, ça va émettre du CO2 aussi. Du coup, une transition, l'électricité n'est pas propre par nature. Il faut penser un peu à tout ça. Et aussi, il faut se dire pourquoi on utilise le pétrole ? Pourquoi on utilise encore ces énergies ? Et c'est là où la question de stockage revient souvent, et c'est des énergies très denses, facilement stockables. Quoi de plus simple, du pétrole, c'est un liquide. De le transporter à travers des bateaux, à travers des tubes, il n'y a rien de plus simple. Alors que l'électricité, ce n'est pas aussi simple. Du coup, toutes ces questions sont à prendre en compte. Et pour consommer toujours moins, vu que c'est l'objectif qu'on a en ce moment, c'est toujours d'améliorer nos machines, améliorer nos objets et les rendre plus performants, les rendre moins énergivores. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand on rend un objet moins énergivore ? On va parler par exemple du domaine de l'automobile. L'automobile, c'est un bon exemple. Nous arrivons à faire des voitures maintenant plus performantes qu'il y a 60 ans. Nous arriverons performante, c'est dans la vitesse, dans la consommation des moteurs. Cependant, ces voitures, elles sont plus puissantes donc, elles ont plus de chevaux, mais est-ce qu'elles consomment réellement moins qu'avant ? Une voiture aujourd'hui, citadine, ça peut consommer 6, 7 litres, parfois 5, c'est dans cette ordre de grandeur-là. Si on prend la 2 chevaux, qui était une voiture dans les années 50, 60, elle consommait exactement la même chose, à peu près 6 litres, 7 litres, c'est des consommations similaires. Mais qu'est-ce qui a changé depuis ? C'est le confort. Le confort a été grandement amélioré. Les voitures modernes, on a des équipements à l'intérieur, on a un peu tout. Et c'est surtout ça qui évolue. Quand on essaye de rendre quelque chose moins énergivore, on va améliorer le confort. On va faire en sorte de proposer un meilleur produit. Mais quand on essaye de proposer un meilleur produit et qu'on arrive à le produire en plus grand nombre et qu'on arrive à le produire à moindre coût, et ce produit, il est disponible pour le plus grand nombre. Et quand il est disponible pour le plus grand nombre et que plus de personnes peuvent l'acheter, plus de personnes souvent l'achètent si l'usage est important. Comme une voiture qui consommerait moins et qui a un prix plus avantageux. Avant, l'automobile était réservée uniquement pour les personnes très aisées. De nos jours, en France, presque tous les ménages peuvent avoir une voiture. Quoique l'augmentation des prix du pétrole nous fait revenir un peu sur cette question-là. Mais si plus de monde peut avoir le produit, même s'il émet moins, si plus de monde le touche, eh ben, on va consommer toujours plus. Du coup, ça aussi, c'est à prendre en compte. On appelle ça l'effet rebond. Ou l'effet rebond, c'est une notion en économie qui désigne un accroissement de la consommation provoqué par la réduction des limites, justement. Ou les limites qui étaient jusque-là posées à l'usage d'un bien, les limites de production, les limites de fabrication en usine d'un produit, et on peut les dépasser. Et du coup, c'est accessible pour le plus grand nombre. Et si on manufacture justement des produits qui consomment moins, et c'est tout de suite plus accessible. Du coup, quand on optimise un produit, on ne va pas directement moins consommer. On ne va pas directement, ou plutôt à long terme, moins émettre de CO2, moins abîmer la planète. Toutes ces questions sont à prendre en compte quand on s'intéresse aux énergies, quand on s'intéresse à l'innovation. L'innovation, c'est pas juste inventer quelque chose de nouveau et tout va bien se passer. Du coup, quand on nous parle de la technologie va pouvoir résoudre la crise climatique, la technologie va pouvoir résoudre la crise sociale, il faut avoir un peu de culot pour le dire et l'affirmer que dans 10 ans, ça va changer sans remettre en compte l'usage de ces produits, sans remettre en compte et réfléchir à la société, comment elle doit se transformer. Et maintenant, écoutons notre première musique, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, de Alpha Blondie. Vous êtes sur Graphite 94.9, toujours dans l'émission Les Échos de l'innovation, sur le thème de l'innovation sous contrainte. Et maintenant, nous allons parler de biomimétisme et surtout Melchior et Théa vont nous parler de biomimétisme et nous allons échanger sur le sujet. Alors, rebonjour Melchior.
Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler dans cette rubrique de biomimétisme. Donc biomimétisme, c'est le principe de copier le vivant. Mais tout d'abord, je vais vous faire une introduction à partir d'un quiz. Quiz auquel nous allons tous répondre. Et donc la première question de ce quiz, c'est « Depuis quand pensez-vous que l'on utilise le biomimétisme ?»
Alors là, j'avoue, le biomimétisme, je ne sais pas trop depuis quand, je n'ai pas vraiment d'année à donner. Après, on peut faire au plus proche, mais c'est utilisé dans la recherche, du coup, je ne sais pas, peut-être... depuis qu'il y a des contraintes sur notre consommation, on doit sans cesse innover, les années 70 peut-être, quelque chose comme ça.
Moi j'imagine que c'est depuis qu'on a appris à analyser les animaux, analyser tout ce qui se passe dans la nature. Je ne sais pas vraiment depuis quand, mais je pense qu'il a fallu déjà avoir des outils, il a fallu déjà comprendre comment est-ce que la nature fonctionnait, quoi.
Moi, je dirais même depuis que l'homme a des besoins, c'est-à-dire depuis qu'il est sur Terre. Donc, je dirais que ça remonte à très, très loin, pour ma part.
Ouais, moi, j'aurais dit la même chose. Pour moi, c'était vraiment au début de notre ère où, de toute façon, on a commencé à observer la nature pour y commencer à innover, à concevoir des outils, des trucs comme ça. On a forcément observé les animaux et ce qui nous entourait. Donc, je pense que ça date d'il y a beaucoup plus longtemps.
Oui, c'était pas formalisé. C'était, en fait, on observait, on faisait par mimétisme
oui,
certaines choses. Ah oui, je vois. Ok, d'accord. Ouais, non,
mais... Oui, après, le terme biomimétisme, je pense qu'il date de plus récent. Il est plus récent, quoi.
Ok.
Alors oui, en effet, le biomimétisme, c'est une vieille histoire. Parce qu'on peut observer dans les commentaires de guerre des Gaules que Jules César explique comment la carapace de la tortue l'a inspiré pour la formation de ses légions avec des boucliers qui forment un dôme et qui permet aux soldats d'avancer sans craindre l'ennemi. 1500 ans plus tard, à partir d'observations d'oiseaux, Léonard de Vinci a conçu ses projets d'hélices, de parachutes ou de planeurs. Et au tournant du XXe siècle, Clément Ader s'inspire des ailes des chauves-souris pour créer son avion et Gustave Eiffel de l'observation des coupes du fémur pour concevoir la structure métallique de sa tour.
Vous aviez raison, hein, ça date d'un petit bout de temps, le biomimétisme. Bon, maintenant une autre question. À votre avis, dans quel domaine d'application le biomimétisme peut-il être utilisé ?
Moi, je dirais, là, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est peut-être aussi parce que je suis en ingénieur mécanique, mais plutôt dans les choses mécaniques, par exemple, dans tout ce qui est aérodynamisme, etc.
Ouais.
Moi, je vois bien, par exemple, sur des voitures de course ou sur ce genre de choses, j'ai l'impression que parfois, on reprend un petit peu ce qu'on retrouve chez les oiseaux, ce qu'on retrouve chez ce genre d'animaux, quoi.
Oui, moi, je dirais sur la forme des... la forme de produits ou même de bâtiments, par exemple. Comment sont conçus, par exemple, certains matériaux. Je sais qu'il y a certains matériaux, certains produits qui sont conçus avec des formes plutôt alvéolées. Donc, ils s'inspirent des nids d'abeilles. Et, voilà, donc, dans les matériaux, je dirais, et même les bâtiments.
Ouais, j'aurais dit aussi les bâtiments où j'avais entendu parler structure en nid d'abeilles, tout ça. Après, je sais pas exactement dans quoi de plus, mais dans le bâtiment, je crois que c'est pas mal. Y a pas mal de recherches dessus.
Ouais, c'est ça. Bah, vous avez à peu près tout dit. C'est ouais, les transports comme les voitures de course, le sport, tout ça. Mais il y a aussi la santé. Et voilà, après, il y a plein d'autres domaines où ça peut s'appliquer, bien sûr. Voilà.
Alors maintenant, nous allons passer à une autre question. Pouvez-vous nous citer des exemples de biomimétisme qui vous arrivent comme ça quand on parle de ce sujet-là ?
Bah, justement, on a parlé des structures en nid d'abeille. Après, qu'est-ce qui pourrait venir d'autre ? Il y a pour des revêtements, avoir des surfaces aérodynamiques. Ça peut s'inspirer des requins. Et après, j'en ai pas forcément beaucoup d'autres.
Je m'y connais pas trop, par exemple, en biologie, mais je crois qu'il y a certaines technologies qui sont calquées sur tout ce qui est bactéries ou ce genre de choses. Je sais qu'on en avait. J'ai pu en entendre parler de temps en temps, mais je vois pas forcément d'exemple comme ça.
Ou après, certaines formes d'intelligence, ou pour trouver les réseaux les plus adaptés, utiliser des champignons qui vont créer justement les réseaux en fonction de là où ils ont de la nourriture. Et on peut le faire, où c'est des points, où là où il y a le plus de nourriture, c'est là où techniquement il y a le plus d'infrastructures et de passages, et comme ça te crée ton réseau. Mais là, je sais pas à quel point c'est du biomimétisme à ce niveau-là, je ne suis pas vraiment expert du domaine.
Oui, même, je sais pas du tout, c'est du biomimétisme, mais s'inspirer de l'organisation d'une fourmilière, par exemple, donc pour comprendre tout ce qui est flux, etc. Mais je sais pas du tout si c'est vraiment du biomimétisme sur ce coup-là.
Moi, j'avoue, j'ai pas trop d'idées qui me viennent comme ça. Je savais qu'il y avait un truc avec c'est le velcro, je crois.
Mais oui, avec le velcro, oui, c'est vrai.
Ouais. Mais du coup, ouais, je suis pas une experte non plus, donc. Là, j'ai rien qui me vient.
Alors, effectivement, tous les exemples que vous nous avez cités sont principalement issus du biomimétisme. Et tout à fait, le velcro en est une. Alors, le velcro, comme le scratch, plus largement utilisé dans l'industrie de la mode et du textile, le velcro, en fait, s'inspire d'une plante dont les fruits sont munis de petits crochets qui sont destinés à faciliter la dispersion des graines, tout en s'accrochant en fait à tout ce qui passe à côté de cette plante, donc principalement des animaux. Et en fait, c'est en analysant les plantes prises dans les poils de son chien qu'après une promenade, que Georges de Mestard, un ingénieur suisse, a créé en 1941 le velcro. Donc le velcro, qui est d'ailleurs la contraction du mot velours et crochet de cette innovation du biomimétisme.
Bon, maintenant, une dernière question, j'avoue, un peu plus difficile. Auriez-vous un exemple d'invention qui compile à la fois plusieurs inspirations de la nature?
Moi, je parlerais par exemple des trains, je pense, parce que quand on regarde, comme on l'a dit tout à l'heure sur l'aérodynamisme, je pense que j'avais vu que des trains, ça peut être... le nez du train, il est inspiré par le bec du martin-pêcheur qui va fendre l'air justement pour pêcher. Et j'imagine aussi que dans les trains, les matériaux, ils sont... comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir des matériaux alvéolaires ou des choses comme ça. Donc je pense que pour des structures ou pour des produits assez complexes comme ça, il doit y avoir une vraie hybridation dans les techniques de biomimétisme.
Oui, clairement. D'ailleurs, le train que tu parles, c'est une invention japonaise, je crois. Et oui, clairement. Mais du coup, ouais, pour répondre à cette question, ce serait l'avion. Alors déjà, parce que tout le monde doit un peu le savoir, l'avion, ça a été inspiré de l'oiseau. Donc, plus pour voilà, l'optimisation de l'espace, sa forme, etc. Mais aussi, ça a été inspiré de la peau du requin, donc pour gagner notamment en aérodynamisme. Voilà, donc après, ça devient un peu compliqué, mais voilà, en gros. Bon, du coup, vous l'avez bien compris, le biomimétisme, c'est comment s'inspirer de la nature pour innover durablement. Et l'illustration parfaite de ce que nous disait déjà un certain Léonard de Vassy, scrute la nature, c'est là qu'est ton futur. Et donc, ce sont en fait toutes les ingénieries inspirées du vivant, d'où également la qualification de bio-inspiration. Donc voilà, c'est comme les exemples que vous nous avez donnés tout à l'heure. En fait, c'est vraiment, on s'inspire de la nature et voilà, ça nous donne des idées. Il s'agit ainsi non pas de copier, mais bien de s'inspirer des solutions inventées par la nature et sélectionnées au cours de milliards d'années d'évolution pour répondre à une problématique qui se pose à notre société humaine. Le tout avec des coûts environnementaux et énergétiques bien moindres que ceux proposés par d'autres types d'ingénierie. Et donc, en fait, le biomimétisme, c'est l'art d'extraire les connaissances de la nature. Et d'ailleurs, le mot biomimétisme est forgé à partir de deux racines grecques, à savoir bios, qui veut dire vie, et mimétisme, qui veut dire imitation. Et ce terme désigne la démarche immémoriale de l'espèce humaine qui consiste à observer la nature et à s'en inspirer pour innover, améliorer sa condition et ses productions.
Merci beaucoup pour cette petite définition. Alors maintenant, je vais vous parler des applications et du futur. Donc le biomimétisme, c'est le grand jeu technologique de demain. Et en effet, les plus belles inventions sont celles qui se sont inspirées des animaux et des végétaux. Les exemples sont innombrables. Pour être high-tech au 22e siècle, il faudra observer les organismes vivants et faire comme eux. C'est naturellement génial. Le biomimétisme a des applications qui se concrétisent dans l'espace, les formes, les matériaux, les procédés et les systèmes. Donc c'est vraiment un espace très large d'innovation. Et la démarche biomimétique est par nature en fait interdisciplinaire. C'est le point de départ qui est donné pour la recherche fondamentale qui permet d'observer, d'analyser et de modéliser le vivant. Les modèles biologiques les plus intéressants sont ensuite saisis par les sciences de l'ingénieur qui traduisent ensuite ces concepts en techniques beaucoup plus concrètes pour nos applications. Et les entrepreneurs, enfin, s'en emparent et participent au développement industriel de ces techniques. Si on exploite la nature comme source de connaissances, on a beaucoup plus à y gagner que de la détruire comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, maintenant, je vous laisse dans ces mûres réflexions et nous allons passer à la suite de cette...
Merci beaucoup. Et maintenant, un peu de musique avec « Fait comme l'oiseau » de Michel Fugain.
Montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras. Je ne sais plus, je ne sais pas.
Alors, ça s'est coupé un peu brusquement, mais vous êtes toujours sur Graphite 94.9 et dans l'émission Les Échos de l'innovation, où nous parlons toujours de l'innovation sous contrainte. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'innovation frugale et à la low-tech. Alors, Paul et Rémi, qu'est-ce que l'innovation frugale? Qu'est-ce que la low-tech? Expliquez-nous tout.
Alors, comme je vous ai un peu dit tout à l'heure, hein, comme on vient de le voir, il est indispensable de repenser l'innovation. Et donc nous, on va vous parler d'une démarche qui est de plus en plus utilisée par les entreprises, qui s'appelle, comme David nous l'a dit, l'innovation frugale. Je vais d'abord un peu vous donner son origine. Hein. Elle vient de Navi Raju, qui est un universitaire indien qui a étudié à l'école centrale de Paris. Et il est aujourd'hui consultant stratégique spécialisé dans l'innovation et le leadership dans la Silicon Valley. Et donc pendant ses études à l'université de Cambridge, c'est lui qui a conceptualisé ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation frugale, mais qui était de base l'innovation djugad. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne, mais ça, c'est un mot indien. Et en fait, ça répond à un changement dans les habitudes des consommateurs. Parce que si dans les années 2000 et même avant, c'était la société de consommation, l'objectif c'était de consommer un maximum. Aujourd'hui, la population n'a plus forcément besoin de produits hyper sophistiqués. Elle est plus là pour rechercher la simplicité à l'usage. On le voit notamment dans notre génération. Il y a aussi une recherche de proximité. Hein. On essaie de consommer des choses qui viennent de plus proche pour éviter les transports. On veut aussi tirer des produits qui viennent de petites quantités. C'est vrai qu'on a un peu ras-le-bol d'acheter dans des sociétés comme les GAFAM ou ce genre de choses. Et il y a aussi l'augmentation de la pauvreté, hein, qui a amené un besoin grandissant de faire mieux avec moins. Et on a aussi le fait que maintenant, il y a une certaine humilité dans la société et on veut plutôt faire de l'innovation d'usage en identifiant les vrais besoins. Donc, comme je vous l'ai dit, Navi Raju, il a inventé ce qui s'appelle l'innovation djugad. Donc, djugad, c'est un mot hindi qui peut se traduire par une solution innovante, improvisée, née de l'ingéniosité et de l'intelligence. Et ça représente tout simplement une façon unique de penser et d'agir en réponse à des défis. C'est l'art de l'audace, celui de repérer des opportunités dans des circonstances les plus défavorables et de trouver des solutions ingénieuses et improvisées en utilisant des moyens simples. Djugad, c'est vraiment le fait de faire plus avec moins. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est faire plus mais aussi faire mieux avec moins. Et donc l'innovation frugale, qui est la même chose mais qui est le terme qu'on utilise aujourd'hui, ça décrit une philosophie de débrouillardise qui, dans un contexte de ressources et de moyens limités, met en œuvre une ingénierie à la fois simple, efficace et peu onéreuse pour répondre à des besoins clairement identifiés. L'idée, est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas simplement de faire plus avec moins, mais de faire vraiment mieux avec moins, et ça, c'est vraiment un sacré challenge. Cette démarche, elle s'appuie sur 5 fondamentaux. L'abordabilité, l'accessibilité, la réduction du prix, parce que c'est vrai que ces innovations, elles vont être surtout utilisées dans les pays émergents. Et de base, elles sont faites pour les pays émergents, mais c'est vrai qu'elles peuvent aussi être adaptées pour les pays plus riches. Et voilà. Et donc, la low-tech qui se rapproche de ça, ça correspond au low-cost, mais l'innovation frugale, elle se distingue du low-cost en ne travaillant pas que sur le prix. Parce qu'il y a aussi la simplicité, qui est un des fondamentaux. Pour que le produit soit facile à utiliser, facile à produire, il y a la durabilité. Donc l'objectif, c'est que sur le plan environnemental, améliorer son impact sur le plan environnemental en évitant l'obsolescence programmée, en faisant en sorte qu'il soit plus facilement démontable, facilement facile pour la maintenance, etc. Il y a aussi cette histoire de qualité, faire un produit qui est costaud. Et enfin, c'est un travail sur le sens, qui soit meilleur pour la société, qui soit plus éthique. Et donc, il faut repenser cette définition du PIB et de la croissance économique en prenant en compte d'autres critères que l'économie. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de générer, de développer plus de valeurs économiques, sociales et écologiques en optimisant l'utilisation des ressources naturelles et capitales. Et donc, tout le monde peut y trouver son compte, hein, que ce soit les employeurs, les employés ou même les clients.
Oui, donc on peut noter que du coup l'innovation frugale, elle s'inscrit dans un processus d'économie circulaire. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'économie circulaire, pour faire simple, c'est un nouveau modèle économique à vision systémique qui vise à remplacer l'économie linéaire. Donc une telle économie, donc l'économie circulaire, fonctionne en boucle, d'où le terme circulaire. Donc elle se passe ainsi de la notion de déchet dans la conception d'un produit. Donc son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières et des sources d'énergie non renouvelables. Pourquoi je vous parle d'économie circulaire ? C'est parce qu'il y a certains piliers de cette économie qui rejoignent ceux de l'innovation frugale. Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, il y a l'approvisionnement durable, donc tout ce qui concerne le mode d'exploitation, extraction des ressources, visant une exploitation efficace des ressources en limitant l'impact sur l'environnement. Il y a aussi l'éco-conception. Donc ça vise, dès la conception d'un procédé, d'un bien ou d'un service, à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit en minimisant les impacts environnementaux. On peut aussi parler d'écologie industrielle et territoriale, qui vise à optimiser les ressources sur un territoire, qu'il s'agisse de déchets, mais aussi d'énergie, d'eau, de matière ou d'équipement et d'expertise via une approche systémique. On peut aussi noter l'économie de la fonctionnalité, donc qui privilégie l'usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Après, il y a également la consommation responsable. Donc ça, c'est plutôt pour l'acheteur. La consommation responsable doit conduire l'acheteur, qu'il soit acteur économique, privé ou public, ou citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux. Ensuite, il y a aussi l'allongement de la durée d'usage du produit par le consommateur, et du coup, ça conduit au recours à la réparation du produit par le consommateur. Et enfin, il y a le recyclage. Donc là, vous connaissez tous, ça vise à utiliser les matières premières issues de déchets. Donc, on a vu qu'il y a de nombreux avantages à utiliser l'innovation frugale pour la planète. Et la bonne nouvelle est qu'un nombre grandissant d'entreprises occidentales, y compris en France, ont déjà commencé à mettre en œuvre les trois principes clés du Jugad que Rémi nous parlait juste avant. Donc la frugalité, l'agilité et l'inclusivité. Donc ces entreprises pionnières ont constaté que cette innovation leur a conféré la souplesse nécessaire pour détecter et réagir aux changements rapides dans l'environnement qui est hautement volatile où elles opèrent et a permis d'offrir plus de valeur à leurs clients à moindre coût. Donc je vais vous donner quelques exemples. Il y a un exemple qui est plus ou moins connu avec Renault, qui s'est attaqué au marché du low cost dans les années 2000 avec la fameuse Logan. Et d'ailleurs, ça continue encore aujourd'hui avec quasiment toutes les voitures de la marque Dacia. Donc, ces produits qui sont conçus en lien avec l'innovation frugale représentent aujourd'hui jusqu'à 40% de leurs ventes. Donc, c'est vraiment énorme. Toujours concernant Renault, il y a l'exemple de la Kwid en 2015, qui est une voiture qui est destinée au marché indien, qui coûte aux alentours de 3 500 euros. Et il y a eu un énorme travail pour diminuer la complexité de cette voiture, qui a permis de s'adapter aux consommateurs et de rendre la voiture beaucoup plus abordable. Ensuite, je peux vous citer un autre exemple du Q-Drum. C'est une invention qui concerne le transport de l'eau du puits jusqu'aux habitations d'habitants au Bangladesh. Donc c'est tout simple. En gros, ils avaient pour habitude d'avoir une sorte de jarre sur la tête et un ingénieur a pensé à créer un cylindre. Donc imaginez un cylindre avec du plastique recyclé qui permet de du coup rouler sur le sol grâce à sa forme cylindrique et ainsi d'éviter aux habitants de s'abîmer les cervicales ou encore les vertèbres. Et du coup, le point commun de toutes ces inventions, c'est tout d'abord une analyse très précise de l'usage et du besoin, prise en compte de l'environnement économique et des pièces immédiatement disponibles. Donc il y a une volonté d'utiliser des ressources locales et surtout il y a beaucoup d'ingéniosité. Donc tout cela, ça donne l'innovation frugale. Du coup, dans le futur, l'innovation frugale, donc pour penser frugalité, comment ça va s'organiser? Il va falloir codifier et organiser la démarche, parce que pour l'instant, elle a seulement été observée, conceptualisée. Donc on l'a dit par Navi Raju. Il va falloir former et accompagner les chercheurs et ingénieurs. Et il va falloir sensibiliser les entrepreneurs, investisseurs et les équipes de recherche et développement. Donc c'est un sacré défi.
On va vous poser quelques questions pour voir où vous en êtes dans votre réflexion par rapport à ça. Premièrement, est-ce que vous seriez prêt à utiliser des produits issus de l'innovation frugale? Ce qui signifierait par exemple l'abandon de certains conforts, par exemple une voiture sans climatisation ou un téléphone épuré, sans application par exemple.
En vrai, pour ma part, je pense que ça dépend. Par exemple, si l'exemple de la voiture, je pense que je le fais déjà aujourd'hui, pas trop utiliser la clim, ouvrir la fenêtre, genre ça va. Mais par exemple, en hiver, je pense que je pourrais pas me passer d'un minimum de chauffage, genre déjà que j'aime pas conduire avec un gros manteau, une grosse écharpe, donc je pense que ça serait compliqué. Voilà.
Moi, je pense que ça serait... faut voir les enjeux qui sont derrière, ou si on se dit tel comportement peut faire en sorte d'améliorer les choses, il faut voir si on ne les fait pas plutôt, si on ne diminue pas un peu notre confort, qu'est-ce qui se passe? C'est plus dans ce sens-là où est-ce que c'est une nécessité? Parce que si on doit le faire, il n'y a pas vraiment... je ne vois pas ça comme un choix, en fait. C'est, si on doit le faire... faut le faire. Si on ne doit pas forcément diminuer notre confort, très bien. Là, c'est plus un choix de sobriété et tout. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix de la sobriété? Je vois plus les choses comme ça. Du coup, je m'impose de certaines règles et je pense si c'était imposé par un gouvernement, par quelque chose d'un peu plus grand, je ne verrais pas... moi, en quoi il y a un problème. Mais je pense que ça peut poser quelques problèmes pour d'autres personnes qui sont attachées à ce confort, à tout ça. C'est la nouvelle génération. Je me considère que je suis dans la nouvelle génération et on est peut-être plus résilient à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus engagée sur tout type de sujet et particulièrement sur le sujet de l'environnement. Ça se voit beaucoup, en tout cas, à l'UTC, donc dans notre école d'ingénieurs. Qui se trouve à Compiègne. L'environnement est vraiment au cœur de tous les sujets de chacun de nos projets en tant qu'étudiant. Je pense que avoir un peu moins de confort dans notre vie qui est déjà suffisamment luxueuse, je pense que ce n'est pas quelque chose de mauvais.
Non, c'est ça. Et puis je pense que la plupart de ce qu'on a actuellement, c'est pas forcément une nécessité, c'est plus un confort, comme on a dit.
Oui, il y a certaines choses qui sont peut-être superflues.
C'est ça. Et je pense que notre génération, elle est prête à s'en passer, parce que voilà, on est dans une génération qui est vraiment pressée par le changement climatique, tous les enjeux qu'il y a autour de ça. Alors que c'est vrai que les générations de nos parents, nos grands-parents, c'était peut-être pas trop le cas. Donc je pense qu'il faut faire vraiment... C'est une transition qui doit se faire petit à petit, mais ça serait bien que tout le monde commence à la faire. Et je pense que s'il y avait des dynamiques vraiment qui allaient dans ce sens-là, ça accélérerait un peu les choses quand même.
Et surtout, c'est que le dérèglement, on va sûrement... on voit déjà le dérèglement climatique, ce que ça fait, et on va le prendre de plein fouet, nous, plus que nos grands-parents, ou même que nos parents, ce qui est assez logique.
Alors ouais, j'entends ces beaux discours, mais par exemple, c'est parfois facile à dire qu'on pourrait se passer de nos conforts, mais on le fait pas forcément. Par exemple, je sais pas si vous avez entendu parler du dumbphone, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément, ça va à l'encontre du smartphone qu'on connaît actuel, par son nom, hein. C'est un téléphone où il y a juste des fonctions de base, essentiellement les appels téléphoniques et l'envoi et la réception des SMS. Est-ce que vous seriez capable de revenir à des téléphones sans nos réseaux sociaux, sans toutes ces choses qui font qu'on passe des heures sur nos téléphones, quoi?
En vrai, je pense que si tout le monde s'y met, ouais, carrément.
Mais par contre, si on les deux, un effort sociétal, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Faire ça tout seul, c'est compliqué.
Le souci du téléphone, c'est que c'est vraiment un objet qu'on a, genre... Enfin, maintenant, on peut plus s'en passer. Tout se passe sur notre téléphone. Donc, revenir à un téléphone avec seulement même un téléphone à touche, je pense que là, pour le coup, c'est un peu brutal, peut-être. Il y a peut-être des trucs à faire avant que s'attaquer au téléphone chez vous.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est un peu l'extension de notre bras, et qu'en fait, le téléphone, c'est un peu l'homme augmenté dont on rêvait il y a longtemps. Pour moi, ça me paraît assez compliqué d'attaquer directement le téléphone.
Ouais, c'est sûr, on a créé ces besoins. Donc
c'est compliqué de s'en passer, quoi.
Ouais, c'est l'effet rebond dont on parlait tout à l'heure. Dernière question, est-ce que vous pensez que... Ça, c'est une question un peu plus concrète. Est-ce que vous pensez qu'une fusée, elle peut, par exemple, être issue de l'innovation frugale?
Alors, issue de l'innovation frugale... Je suis partagé, parce que tout ce qui va tourner autour des transports, de l'aviation, de l'aérospatial, à quel point c'est un besoin, un besoin vital? Est-ce que ça répond à la définition de développer une fusée en soi qui consomme moins, plus simple d'application? Oui, ça peut répondre à la définition, je pense, mais j'ai du mal, en tout cas, à percevoir ça comme une innovation frugale quand on parle d'envoyer quelque chose dans l'espace, quand on parle de cramer beaucoup de carburant. Faudrait en fait qu'on montre... Je ne visualise pas totalement.
Ouais, est-ce que c'est vraiment nécessaire, quoi, ça?
Oui, c'est clair. On peut se poser cette question qui est plus de l'ordre éthique. Mais justement, moi, je vais vous donner un exemple d'une sonde indienne qui a été envoyée il n'y a pas longtemps et qui a coûté... 10 fois moins cher que celle qui avait été envoyée par la NASA. Et justement, le secret, c'est quoi? C'est l'innovation frugale. Donc, cette sonde qui était à destination de Mars, elle a coûté que 73 millions de dollars, ce qui est quand même énorme. Et elle a été développée en seulement 18 mois grâce justement à l'innovation frugale. Et pour ce faire, les ingénieurs indiens, en fait, ils ont eu largement recours à des tests de simulation par ordinateur qui étaient du coup bien moins chers et plus efficaces. Et ils ont conçu une fusée de telle manière qu'elle puisse tourner autour de la Terre pendant un mois afin de prendre suffisamment de vitesse pour pouvoir se propulser ensuite vers la planète Mars. Donc ça a été un choix qui a permis de réaliser une impressionnante économie de carburant. Donc pour revenir sur est-ce que la fusée ça peut être une innovation frugale, oui, mais certaines fusées peuvent être plus low-tech par rapport à d'autres fusées, mais est-ce que dans l'absolu une fusée peut être conçu selon les termes de la low-tech, ça c'est sûr que c'est compliqué à croire ça. Quoi.
Ouais, parce que moi je me demande par exemple pour une société comme SpaceX, on voit Elon Musk, il a fait un gros travail, et si on prend nos fondamentaux de l'innovation frugale dont on parlait tout à l'heure, si on regarde par exemple l'accessibilité niveau prix, c'est vrai que c'est des fusées qui sont beaucoup moins chères que les fusées aériennes d'avant. La simplicité, c'est des fusées qui sont plus faciles à lancer aujourd'hui. La durabilité, étant donné que c'est des fusées où les lanceurs peuvent revenir sur Terre et peuvent être réutilisables. Pareil, on rentre dans ces fondamentaux-là. Est-ce que la qualité, oui, la qualité, elle est très bonne. Et puis, c'est aussi Après, c'est plus le sens qui peut peut-être poser problème. Est-ce que ça permet vraiment d'améliorer la société ou pas? Est-ce que c'est vraiment éthique ou pas? Ça, c'est la question. Mais effectivement, la question, c'est surtout de savoir si on parle de low-tech ou de lower-tech, de savoir si c'est dans l'absolu ou de manière relative à une autre innovation. Voilà.
Bah parfait, merci beaucoup. Et maintenant, pour clore cette émission, des petits conseils de lecture. Alors, quelques livres à vous proposer si vous voulez aller un peu plus loin dans ce qu'on vous a raconté et aller un peu plus loin justement dans tout ce qui est questions énergétiques, dans tout ce qui est low-tech. Alors, premier, Limit to Growth, ou Les limites à la croissance, qui est aussi appelé le rapport Meadows, vu que un couple, Donella Meadows et Denis Meadows, l'ont coécrit. Il y a aussi un dernier écrivain, Jorgen Randers, qui c'est un modèle informatique, l'explication d'un modèle sur l'exploitation de nos ressources, comment ça peut évoluer dans le temps, qu'est-ce qui se passe en cas de surexploitation, et essayer de prévoir des formes d'effondrement. Effondrement, c'est pas du tout tourné comme apocalypse, mais plus réellement comme effondrement de biodiversité, ce qu'on est en train de vivre, ou effondrement de ressources où ça coûte toujours plus cher d'exploiter de nouvelles ressources. J'ai aussi le livre La guerre des métaux rares, de Guillaume Pitron, qui là s'intéresse à tout ce qui est terre rare, ce qui est présent dans les nouvelles technologies, qui en fait sa critique. La critique sur l'extraction, sur où sont concentrées les richesses et sur le recyclage parfois impossible de nombreux composants. Et pour la partie low-tech, alors L'âge des low-tech de Philippe Biwix, un ouvrage assez connu, un ouvrage de référence quand on parle de low-tech, qui va justement faire une critique de l'innovation verte et tout ça. Mais il y a aussi Théa qui va nous parler d'une revue assez intéressante.
Oui, en effet. Alors, de mon côté, j'aimerais vous faire découvrir la revue Science et Pseudosciences numéro 329, éditée par l'AFIS. Alors, en fait, l'AFIS, c'est une association française pour l'information scientifique, totalement indépendante, que ce soit financièrement ou idéologiquement, d'un quelconque parti politique et même du gouvernement. Alors, cette revue contient un dossier intitulé « Énergie et climat, rien n'est simple », qui propose une dizaine d'articles sur justement des problématiques d'actualité liées aux énergies et au changement climatique, comme par exemple « Quel avenir pour le pétrole ?» ou encore « Les conséquences d'un tout renouvelable pour la production d'électricité ?» ou encore « L'impact sur la santé des différentes sources de production d'énergie ?» Bon, il y en a encore plein d'autres, hein, je ne vais pas toutes vous les dire. Mais dans ce numéro, on y retrouve aussi encore d'autres articles sur... la zétique ou l'art du doute, donc notamment sur la vaccination contre les papillomavirus. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, je vous laisse découvrir toutes ces lectures. Vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'AFIS. Voilà.
Bah parfait, merci beaucoup. En espérant que certaines lectures vous inspirent. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver bientôt pour une émission qui portera cette fois plus sur l'innovation dans les transports. On a abordé les fusées aujourd'hui et aussi beaucoup l'automobile, mais aller plus dans le détail justement dans ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.